Et voilà, le titre que j'avais proposé, c'était d'étudier du point de vue du calendrier hébraïque la période qu'il y a entre Pessah, qui commémore la sortie d'Égypte, et Shavuot, la révélation de la Torah au Sinaï, et qu'on appelle la période du Homer. Je ne sais pas si dans nos différents séminaires nous avons déjà étudié ce sujet-là, je ne sais pas. Oui, ça nous est arrivé. Top, nous allons y revenir. Et en fait, puisque nous nous approchons de la date de Shavuot, qui est dans le calendrier hébraïque le 6 Sivan, dans quelques jours, je vais commencer d'abord par définir le cas particulier du jour du 6 Sivan, que l'on appelle en hébreu Hag HaShavuot, la fête des semaines, et qui a aussi pour nom la fête de Matan Torah. Vous entendez ?
Oui.
Et il y a un cas particulier, c'est le seul jour commémoré pour lequel la Torah ne donne pas une date en soi. C'est-à-dire, il n'y a pas une mitzvah de la Torah nous disant que le 6 Sivan, on doit commémorer la révélation de la Torah sur le mont Sinaï. Mais la fête de Shavuot est rattachée à la fête de Pessah, puisqu'elle est fixée le 50e jour à partir du premier jour de Pessah. Et tout à l'heure, nous aurons peut-être l'occasion de voir des références à ce sujet de façon plus précise, mais c'est une chose assez connue. En particulier, on peut l'éclairer par le nom français de la fête, ou la traduction française de la fête de Shavuot, qui est Pentecôte, et qui, comme vous le savez, venant du grec, signifie la fête du 50e jour. Et cette période qui va donc de Pessah à Shavuot a un nom dans la tradition, c'est la période du Homer. Et depuis très longtemps, ce terme du Homer a pris une connotation de période de deuil. J'expliquerai d'ailleurs assez rapidement les différentes manières de commémorer ce deuil suivant les différentes communautés. Mais je vais d'abord aller à l'essentiel du sujet que je voudrais traiter. Le fait que la période du Homer soit connue depuis la fin de l'indépendance de la Judée au temps des Romains, comme étant une période de deuil, et ce deuil d'ailleurs, comme vous le savez sans doute, commémore la catastrophe de Bétar, la catastrophe de le dernier écrasement, si j'ose dire, de la révolte des Judéens contre les Romains, au temps de Bar Kokhba et de Rabbi Akiva, et qui a mis fin aux chances qu'il pourrait y avoir en ce temps-là de retrouver, de garder ou de retrouver une indépendance politique de la Judée dans sa lutte contre l'Empire romain. Et c'est depuis ce temps-là que commence définitivement la longue période de l'exil que nous avons connue jusqu'à notre temps. Et c'est pourquoi cette signification, cette connotation de deuil qui s'attache à la notion du Homer et à la période du Homer semble avoir pris le pas sur la signification biblique de ce terme, que je vais commencer très brièvement par rappeler. C'est dans la paracha de Emor que l'on apprend le sens biblique du terme du Homer. Homer en hébreu signifie une gerbe. À Pessah, on offrait l'offrande de l'orge, et à partir du lendemain de Pessah, il y a un temps de 50 jours où l'on commençait à offrir l'offrande de la gerbe de blé qui était offerte à Shavuot, et nous verrons immédiatement la signification de cette différence même de la matière de l'offrande dans le rite du temple de Jérusalem. Et donc le mot de Homer ne signifie pas du tout deuil, il signifie gerbe. Il y a donc deux niveaux. Le temps biblique, où le compte de l'Homère, des 49 jours puis le 50e qui mène à Shavuot, était le compte du temps qui sépare Pessah de Shavuot et du temps où il était possible, loisible, je ne sais plus si on dit cela, d'apporter cette nouvelle offrande de blé pour la fête des prémices. Comme vous le savez d'ailleurs, Chag HaShavuot a aussi d'autres noms, et en particulier Chag HaBikurim, c'est-à-dire la fête de l'offrande des prémices. Alors c'est un premier sujet qui se pose à nous. Comment comprendre ce changement de sens, ce changement de signification entre l'Homère, la Homère en hébreu, du temps biblique, et le conte du Homère était donc le conte du rite de l'offrande de la gerbe de blé, et puis ensuite, à partir du temps de Rabbi Akiva et de Bar Kokhba, donc comme je le rappelle brièvement, de la fin définitive en ce temps-là de l'indépendance de la Judée, par rapport à la civilisation contemporaine qui débute en ce temps-là avec l'Empire romain, est devenue surtout une notion de période de deuil. Du point de vue de la tradition, on apprend que l'armée de Bar Kokhba, qui était en grande partie constituée par les élèves de Rabbi Akiva, avait été, comment dire, anéantie par ce que l'on appelle en hébreu une magepha. Magepha, on peut traduire par épidémie, et c'est habituellement le sens que l'on trouve dans les différentes sources qui en parlent, qu'une épidémie aurait frappé les élèves de Rabbi Akiva. Et sans anticiper encore beaucoup, je rappelle qu'il formait l'essentiel de l'armée de Bar Kokhba, qui a été la dernière armée de la dernière révolte contre les Romains, écrasée en fin de compte à Pétard en ce temps-là. Mais le mot de magepha, qui historiquement, traditionnellement, peut se traduire par épidémie, a un sens plus général et plus fondamental qui est celui de catastrophe. Une catastrophe peut être une épidémie. Alors, la question qui se pose à nous, c'est pourquoi commémorer cette destruction de l'armée de Bar Kokhba, c'est-à-dire les élèves de Rabbi Akiva, dans cette période? Première réponse traditionnelle, c'est que l'événement s'est passé en ce temps-là. Mais je voudrais reprendre cet élément en élargissant le problème que cela pose. Je crois que la meilleure manière d'aborder ce sujet, c'est d'abord de situer, si vous voulez, de définir le lien qu'il y a entre Pessah et Shavuot. D'abord de remettre en évidence là, que Shavuot, semble-t-il, ne se présente pas comme une fête de commémoration autonome, mais comme, selon les termes bibliques eux-mêmes, Aseret de Pessah, c'est-à-dire la clôture de l'événement qui commence à Pessah. Je vais vous donner très rapidement une analogie dans les fêtes du mois de Tishri. Dans les fêtes du mois de Tishri, la fête de commémoration qui correspond à Pessah, c'est Sukkot, qui, selon le calendrier hébraïque, a 7 jours. Et le lendemain des 7 jours de Sukkot, nous avons un 8e jour de fête, qui est Shmini Hag Ha'atzeret, avec le même terme, le 8e jour de la fête de clôture de Sukkot. Tout se passerait comme si Shavuot serait le 8e jour de Pessah, mais un 8e jour de Pessah décalé d'une période de 7 semaines. Et c'est donc sur la signification de cette période de décalage que nous allons commencer par réfléchir. Alors, il me semble qu'il suffit de rappeler deux définitions fondamentales. Pessah est un événement historique de libération du peuple d'Israël au niveau de sa libération physique. Il y avait esclavage, il y avait exil, dispersion, esclavage, asservissement, aliénation, et sans qu'il ne soit encore en aucune façon question d'une Torah éventuelle, d'une révélation éventuelle de la Torah, nous assistons dans le déroulement du récit, et donc dans le déroulement des événements, à l'achèvement d'une longue période de l'esclavage des Hébreux dans l'exil d'Égypte, par l'événement que commémore Pessah, la sortie d'Égypte, c'est-à-dire la fin de l'exil. Et c'est un événement en soi, qui est défini dans la plupart des sources qui traite ce sujet comme étant la libération physique, nationale, terrestre. Je ne sais pas, on pourrait employer énormément d'adjectifs, mais l'idée centrale est finalement simple. Au niveau des corps de ce peuple, de la libération d'Israël. Alors que maintenant, Torah, la révélation de la Torah le jour de Shavuot est à un tout autre niveau. Pour garder le même vocabulaire, il s'agirait de la libération spirituelle de la relation à une civilisation d'idolâtrie qui était celle de l'Égypte. Pour prendre une image très simple, de même qu'à l'échelle individuelle, la personne humaine est corps et âme, le corps d'Israël a été libéré à Pessah, son âme a été libérée à Shavuot. Hop, il y a là une formule suffisamment simple pour bien cadrer notre problème. Il en résulte que si Pessah ne mène pas à Shavuot, Pessah est en question. C'est irréversible, la sortie d'Égypte, mais c'est un commencement. Un commencement qui doit arriver à un aboutissement, à un achèvement, pour être, disons, parachevé. Une sortie d'Égypte qui ne mènerait pas au Matan Torah serait une sortie d'Égypte qui s'ouvre devant le néant. Et c'est donc intentionnellement que la Torah elle-même situe le jour de Shavuot en relation étroite avec le jour de Pessah, qui est le commencement de cette période du Homer. Ce n'est que beaucoup plus tard que des événements catastrophiques auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure dans l'épisode de la révolte des soldats de Bar Kokhba qui étaient les élèves de Rabbi Akiva vont venir se ranger comme période de deuil parce qu'il y a eu échec, mais nous y reviendrons assez rapidement. Pour éclairer cela, je dirais que selon le Midrash, il y a eu toute une série d'événements de ce type de magéfa, de catastrophe, qui se situent dans cette période. Je vais en citer provisoirement un que je reprendrai dans la conclusion, qui essaiera de donner une signification plus large à ce thème. On nous raconte que la vente de Joseph par ses frères, qui commence d'ailleurs l'histoire de l'exil, se situe dans cette période du Homer, qui est déjà une première catastrophe déclenchant le commencement de l'exil, c'est la vente de Joseph par ses frères. Je donnerai une analogie parallèle à ce fait que certaines périodes du calendrier semblent être par privilège, et nous approchons par approximation d'un problème assez mystérieux, le fait que certains types d'événements ont leur date de commémoration à certains moments du calendrier. Et si on n'a pas eu expérience historique du fait que c'est arrivé ainsi, on pourrait se demander s'il n'y a pas eu une décision purement symbolique de situer ces commémorations à tel jour, à tel moment de l'année, plutôt qu'à un autre. Nous allons en avoir toute une série d'exemples assez immédiatement. Mais l'analogie que je voulais donner, c'est le jour de Tisha B'Av, le jour de la destruction du Temple, le 9 Av. Ceux qui connaissent les sources, mais il suffit de le rappeler en série, savent que toute une série de catastrophes sont rangées dans cette même date. Premièrement, bien qu'il y ait des controverses, même dans le Midrash, sur est-ce que c'est le 9, est-ce que c'est le 10. Par exemple, premièrement, la destruction du premier temple a lieu un 9 Av, et voilà que la destruction du deuxième temple a lieu aussi un 9 Av. On ne peut pas ne pas être frappé par cette mise en place de ce qu'on pourrait appeler provisoirement des coïncidences significatives, mais je vous citerai à travers toute une longue série de persécutions et plus que persécutions qui se sont situées et déclenchées le jour du 9 Av, une des dates les plus récentes et qui est très connue des milieux traditionnels juifs et qui est très significative pour la période contemporaine que nous vivons, c'est que la guerre de 14-18 a été déclarée un jour du 9 Av, que l'expulsion d'Espagne a commencé un jour du 9 Av, et toute une série d'événements de ce type. Ce que j'essaie de mettre en évidence est un problème que vous avez déjà, je suppose, entendu. Est-ce que si nous nous situons a posteriori de la fixation d'un calendrier, il s'agit d'une intention symbolique de ce qui aurait fixé le calendrier, de grouper un certain type d'événements dans un certain type de date, ou bien est-ce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond, une sorte de convergence, plus profond que des coïncidences, entre des événements et des moments du temps, dans le déroulement de la carte d'identité d'une année que nous appelons le calendrier. Je donnerai encore quelques exemples d'approche de ce premier problème pour arriver finalement à la définition de ce temps entre Pessah et Shavuot qui s'appelle le Homer. Et qu'est-ce que cela signifie qu'il devient, dans les périodes de catastrophe, la période significative des commémorations de deuil. Ensuite, nous parlerons de la manière dont ce deuil est commémoré, elle est aussi significative, et notre sujet s'élargira dans différentes dimensions de ce problème qui restera le même entre Pessah et Shavuot, mais nous avons déjà appris un principe important. Entre le commencement des événements et des processus de libération, et d'autre part, leur achèvement, leur point culminant, Pessah, Shavuot. Par exemple, l'exemple de Hanouka. Vous avez certainement étudié d'autre part. Hanouka commémore un événement historique bien précis, bien daté, la révolte des Judéens contre les Grecs et la réinauguration du Temple de Jérusalem qui avait été consacré à l'idolâtrie parlée par les Grecs occupant la Judée. Et voilà que cet événement historique est bien daté dans la période de Hanouka, et cependant, à travers le Midrash, et aussi d'autres choses dans la Gemara, nous apprenons que déjà le premier homme fêtait Hanouka à sa manière. Alors, je dirais d'abord au niveau midrashique, et nous arriverons très rapidement à sa signification. Il suffit de découvrir que le jour qui commence Hanouka est, dans l'ordonnance, la cohérence du calendrier hébraïque, le jour du solstice d'hiver. C'est que jusqu'au jour de Hanouka, la quantité de lumière qu'il y a chaque jour dans l'année décroît, et qu'à partir du premier jour de Hanouka, la quantité de lumière commence à croître. Et ce jour-là, c'est le jour de Hanouka. Alors le Midrash nous dit, le premier homme avait fêté Hanouka. Comment il le décrit? C'est que la période de Hanouka se situe après Tishri. Tishri, c'est le jour commémorant la création du monde, la création du monde de l'homme, la création du premier homme. Et il y a eu faute. Et le premier homme voit, s'aperçoit que la lumière décroît dans le monde et relie cela avec son expérience de la faute. Et imaginez la pente de désespérance, la pente de désespoir, si l'on peut dire. Et puis voilà qu'il s'aperçoit que la lumière recommence à croître. Alors il allume des grands feux pour aider la lumière à croître. C'est comme cela que nous avions entendu la première. C'est un midrash et il se trouve dans les sources. On pourra donc trouver des analogies dans beaucoup de traditions, qu'à ce moment-là, on allume des feux, et je ne voudrais pas trop élargir l'indication, parce que nous avons peu de temps pour beaucoup de choses à citer. Ça signifie que dans tous les cas, a priori, le 25 Kislev, jour du solstice d'hiver, c'est la Hanouka du monde, dans le monde cosmique. Et la tradition attend, à travers toute une série d'événements, qui pourrait être choisi comme l'événement historique type de commémoration, qu'à partir de tel événement dans l'histoire, on a enfin rencontré l'événement dans l'histoire des hommes qui illustre au niveau historique la signification du jour en lui-même, par exemple dans l'événement Hanouka. La tradition a diagnostiqué que cette résurgence de la lumière qui risquait de disparaître complètement au niveau de l'événement historique, c'est la réinauguration du temple de Jérusalem après la victoire des Judéens sur les Grecs. Et à l'époque de cette décision du Beit Din de Hashmonaïm, du tribunal rabbinique de Maccabi, eh bien, il y a dû certainement y avoir des discussions. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Est-ce que c'est vraiment cela l'événement au niveau de l'histoire des hommes de Hanouka, au niveau du temps cosmique? Et finalement, la liturgie se cristallise. Après, par exemple, un débat dont le Talmud nous laisse la trace, que faut-il commémorer? Faut-il commémorer la victoire des Maccabées en tant que victoire, c'est-à-dire le fait que ce jour-là, les soldats des Maccabées sont entrés dans le temple avec des torches allumées sur leurs lances? Ou faut-il commémorer le sens spirituel de cette victoire, qu'alors que l'huile pure risquait de disparaître complètement, il en restait une petite fiole qui a pu illuminer le candélabre jusqu'à ce qu'on ait le temps d'avoir de nouveau une récolte d'huile pure. Je résume très brièvement, en me souvenant que vous avez eu un séminaire à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, cette victoire des Maccabées avait mené à la restauration de l'indépendance politique en Judée, et finalement que cette indépendance politique en Judée avait été gâchée par le clan des Sadducéens, d'où échec, et donc le Talmud finit, je résume beaucoup, finit par préférer l'aspect spirituel de la commémoration de la fête à l'aspect qui serait plus intensément national-politique. Vous comprenez donc le débat qu'il y a pu y avoir, et encore une fois, dont le Talmud nous laisse les traces. Pour notre sujet, c'est un exemple qu'un jour dans l'année a sa signification propre du point de vue des commémorations spirituelles et religieuses, à tous les niveaux, et qu'il faut attendre dans le temps de l'histoire qu'un événement de l'histoire des hommes l'illustre pour que ce soit cet événement-là qui soit l'illustration de commémoration. Par exemple aussi pour Pessah. Depuis le temps des commencements, Pessah, c'est la pleine lune du printemps. Mais il faudra attendre la sortie d'Égypte pour que la Torah fixe que la signification de Pessah comme fête de Matzot, c'est la sortie d'Égypte. À partir de ce diagnostic, l'événement a rejoint le jour significatif et le jour significatif a trouvé son événement. Notre problème était donc sont nous témoins d'expériences où effectivement cela se passe à la date. Les contemporains savent que cela se passe à la date considérée. Alors laissons le mystère au niveau du mystère. Il n'y a pas coïncidence, il y a convergence de deux plans de l'être. Les événements historiques qui illustrent la signification du jour dans le temps du calendrier se passent effectivement à la date où ils se passent. Et comme nous sommes contemporains d'un certain nombre d'événements de ce genre, nous pouvons être assurés quant à la cohérence de ce que nous disent les temps anciens. J'espère que ce premier point est suffisamment clair. Alors je vais essayer maintenant, en deuxième point, d'aborder la question de la signification de ce temps de passage, d'effort, entre Pessah et Shavuot, d'une libération qui commence au niveau physique à Pessah. Et c'est pourquoi, dit le Midrash, on a porté l'offrande de l'orge, et qui va, à travers 50 degrés de l'effort, jusqu'à la libération spirituelle, à proprement parler, du jour de Shavuot, et c'est pourquoi on a porté l'offrande de blé, et le Midrash explique, parce que l'orge est aussi nourriture pour l'animal, pour la vie purement biologique, alors que le blé est caractéristique de la nourriture de l'homme. De même, Pessah, c'est la libération d'Israël, mais au niveau de la vie biologique. Shavuot, c'est la libération d'Israël, mais au niveau de la vie spirituelle qui fait qu'un homme est un homme. Et donc, à Pessah, c'était l'offrande de l'orge, et à Shavuot, c'était l'offrande du blé. Eh bien, cette période-là est en soi une période vulnérable, une période dangereuse, une période caractéristique où viendront se loger les événements d'échec qui mettent en question ce qui était acquis à Pessah, ou au contraire les événements de réussite qui permettent le progrès de ce qui a commencé à Pessah jusqu'au moment ultime de Shavuot. Je crois que c'est l'essentiel de l'explication de l'identité de ce temps-là, temps de passage entre Pessah et Shavuot, et nous en avons eu l'éclairage historique au moment de Rabbi Akiva et de Bar Kokhba et de l'échec ultime de la révolte contre les Romains. C'est-à-dire, c'est précisément dans cette période-là que l'acquis de la sortie d'Égypte est mis en question. Le deuil est le deuil de la commémoration du fait que, bien que sortis d'Égypte, nous allons recommencer l'exil. Alors, l'événement s'est produit à cette période. Je pense avoir été suffisamment précis, ce qui nous permettra d'avancer dans l'analyse. Mais nous avons découvert en même temps, c'est dans cette période-là, que les événements de progrès qui rendent non seulement l'espoir, mais la mise en route, la mise en marche de cet effort de libération sont commémorés aussi dans cette période. Par exemple, dans la période du Orné et Deuil, il y a un jour qui brise le deuil de cette période et qui est le Dag Orné, le 33e jour du Orné. Et j'y reviendrai dans l'esprit. Historique elle-même immédiatement, mais d'abord je voulais mettre en évidence ce fait qu'il y a ces deux dimensions, ces deux pentes, si vous voulez, de la même problématique, une libération en cours. Si elle réussit, alors on a un jour de type lagrome, un jour de joie. Si elle échoue, alors on a un jour de type deuil, les 33 jours du deuil du deuil. Ça va un peu plus éclairer dans la diversité des rites de commémoration de ce deuil, à travers les grands courants des communautés. Chez les Sfaradim, le deuil commence le lendemain du premier jour de Pessah, c'est-à-dire à Pessah même, et s'arrête le 33e jour, qui est le jour de l'Albon. Dans la majorité des communautés Ashkenaz, le deuil commence le premier jour du deuxième mois, c'est-à-dire du mois de Iyar, et s'achève à Shavuot avec une interruption, le jour de la Bormen, il reste 33 jours de deuil aussi. On va pas rentrer dans les détails du coup. C'est donc qu'il y a une tradition commune, il s'agit de 33 jours de deuil. Et un problème des sciences de la liturgie, qui n'est pas simple, pourquoi les Sfaradim ont l'habitude de fixer le deuil dans la première période du Bormen et de l'arrêter à la Bormen, c'est pourquoi vous ne voyez pas avec une barbe promenée, parce que, comme je suis une sparade, le deuil est arrêté de la barbe. Alors que les Ashkenazis, pendant tout le mois de Pessah, ne sont pas hirsutes, et commencent à devenir hirsutes à partir du premier Iyar
jusqu'à Chavour. Alors ne vous trompez pas. Si vous rencontrez un juif dans la rue, ne regardez pas sa barbe parce qu'on posera des problèmes de calcul. Et le jour de la barbe au maire, effectivement, est connu comme un jour de joie qui a brisé ce verre. Mais il y a aussi un troisième courant, et qu'on trouve et chez certains Sparadim et chez certains Ashkenazim, où c'est la période de 50 jours, tout entière, qui est considérée comme une période de deuil, avec ou sans interruption le jour de l'Advent. Ce sont des niveaux, si vous voulez, de Jean-Paul Rennes. Vous avez compris, de Jean-Denis. Et je voudrais expliquer très rapidement, en tout cas pour la tradition ashkénaze, pourquoi le deuil commence au premier Iyar. La motivation de la halakha, c'est que tout le mois où se situe Pessah est considéré comme un mois de fête, et par conséquent, si on ne prend pas de deuil pendant le mois de fête, on ne commence dans le mois de Nissan, c'est bien ça. Et on commence le deuil qu'à partir du mois de Nissan. C'est donc une raison, il y a une raison importante, impérieuse, dans la tradition sfarade, qui fait qu'en dépit de cette règle, on commence le deuil à Pessah, et on ne l'arrête qu'à la bonne. Nous n'avons pas donné trop de tracas de soucis de calcul, mais c'est finalement assez simple. Je crois que la formule même de la liturgie de la bénédiction du conte du Homer peut peut-être nous éclairer à ce sujet, et je le formulerai sous forme de question. C'est que la Torah elle-même, je vous donne la référence, c'est dans la paracha de Emor, chapitre 23 du Lévitique, la Torah nous dit ceci. Verset 15 du chapitre. Vous partez de la fête et vous compterez pour vous. Une mahorat à Shabbat. Depuis le lendemain du jour de la fête qui est appelée ici Shabbat, c'est notre problème. Nous avons dit à Hachem et à Omer de Boufa, depuis le jour où vous apportez la gerbe, littéralement la gerbe de l'offrande, la gerbe qui était balancée en offrande devant l'autel, c'est pour la fête Boufa, le balancement. Vous compterez Shebar Shabbatot et Nounot Yéna, sept semaines parfaites. Et ici, le mot de Shabbat a le sens de semaine. Verset 16, Ad Mimahorat HaShabbat HaShvi, jusqu'au lendemain de la septième semaine, Tispeut HaMishim Yom, vous compterez 50 jours. Donc, la Torah nous demande de compter sept semaines et 50 jours. Alors, première indication, vous l'avez signalé tout à l'heure, en réalité, on ne compte que 49 jours. Et le 50e jour est donné comme achèvement. On n'a plus à le compter. Si on a compté les différents degrés de cet effort auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, alors on est arrivé jusqu'au summum de l'effort proprement humain qui commence à Pessah et vise le sommet de Shavuot, et le 50e jour est donné de surcroît. C'est relié au fait que la Gemara nous enseigne que au pied du Sinaï, la liberté de choix est supprimée. Et vous vous rappelez de ce passage de la Gemara, à propos d'une particularité du verset, ils s'assemblèrent au pied de la montagne. La Gemara nous fait dire plus littéralement sous la montagne, et la verse de la Gemara explique que ce qui passait, c'était sous la montagne, par rapport au sujet lui-même, que Dieu a soulevé la montagne et a dit à Israël, si vous acceptez la Torah, c'est bien, sinon je lâche la montagne. Ça signifie qu'il n'y a plus de liberté. Où était la liberté? Où était le mérite? Dans les étapes des 49 jours qui menaient à ce rendez-vous du 50e. On savait où on allait. Et donc le mérite, c'était d'y aller. Mais au moment où on est arrivé et qu'il y a dévoilement, révélation, la liberté est supprimée. Je pense que l'idée est suffisamment claire. C'est-à-dire que c'est le fait même de révélation qui est cette contrainte de suppression de la liberté. De rendre évidence, eh bien, on n'a plus de liberté. Ou comme le Midrash nous dit à sa manière, lorsque le roi est présent, le serviteur n'est plus libre. Le serviteur est libre, ou croit qu'il est libre, c'est un problème philosophique, lorsque le roi se cache, lorsqu'il est dans, apparemment ailleurs. Mais s'il est présent, alors il n'a plus de liberté. Ça ne m'enlève en rien le mérite, au contraire. Le mérite, c'était d'arriver au pied du Sinaï. Eh bien, c'est très parallèle à notre problème du compte de 49 jours, et des 7 semaines, c'est-à-dire 49 jours, et des 50 jours de la Torah. Et le fait d'avoir compté les 49 jours sans interruption eh bien, a pour achèvement, parachèvement, le 50e où la Torah est donnée. Une petite anecdote folklorique, disons. Dans beaucoup de communautés, c'est encore traditionnel, c'est encore dans beaucoup de familles, on pratique un rite très particulier à Shavuot, c'est que le premier repas est un repas de laitage. Vous devez savoir ça. Dans certaines familles, il y a d'ailleurs un gâteau au lait, au fromage, pardon, traditionnel. Je ne sais pas comment ça s'appelle en yiddish. En français, ça s'appelle yiddish. Un gâteau au fromage. D'accord. Et alors, je croyais que c'était pas. Oui, c'est vrai, c'est papa de la viande. Et justement, étant donné qu'on a reçu la Torah au Sinaï à Shavuot, il fallait commencer à manger kasher. Alors, pour indiquer qu'on commence à recevoir la souveraineté des mitzvot, que le premier repas est levé, puisque l'ordre d'un garçon n'est pas possible. Je pense que c'est vrai. Il y a certaines communautés où c'est le soir de la fête qu'il y a un repas de lait. C'est chez les Sfaradim en général, c'est le premier repas du matin. Et c'est un repas de lait parce qu'on n'a pas reçu la Torah le soir, on a reçu le matin. Gracias.